Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Sommaire de ce point, actualité, les Nations Unies ont dénoncé la récente législation israélienne qui approuve la coupure d'eau et d'électricité à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Notre dossier du jour sera consacré à la vague de froid qui traverse le pays. Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, nous parlera notamment du plan grand froid déployé dans la capitale. Et enfin, suivre la page sport spécial Cannes avec Mounir Kamouri. Nous l'avons évoqué dans les titres, les Nations Unies ont dénoncé la récente législation israélienne qui approuve la coupure d'eau et d'électricité à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, au risque de priver des millions de personnes de ses services de base. Dans un tout autre volet, des milliers de Somaliens sont descendus dans les rues aujourd'hui pour s'opposer à la reconnaissance formelle par Israël du Somaliland la semaine dernière. Une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991. Israël a défendu cette décision, estimant que nul ne pouvait remettre en question sa politique étrangère et notant que de nombreux pays reconnaissaient déjà un État palestinien. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont annoncé le retrait de forces restantes au Yémen après que l'Arabie saoudite a fixé un délai de 24 heures pour leur départ. En Syrie, les autorités ont décrété ce mardi un couvre-feu dans la ville côtière de Latakié après de nouvelles violences dans des quartiers à majorité alaouite, une communauté musulmane régulièrement cible d'attaques, violences qui ont fait un mort selon une ONG. En Iran, le mouvement de protestation contre la vie chère et la dégradation de la situation économique s'étend des étudiants aux commerçants. Le président iranien s'est dit à l'écoute des revendications légitimes des manifestants. Et dans le reste de l'actualité internationale, l'Union européenne accuse la Chine de mettre la stabilité internationale en danger avec ses manœuvres militaires à Taïwan. Paris s'est dit préoccupé de la situation. Dans un tout autre volet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'une réunion avec les dirigeants des pays alliés de Kiev était prévue la semaine prochaine en France, dans le cadre des pourparlers pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Et enfin en France, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé une subvention de 490 000 euros votée en juillet par le conseil municipal de Metz pour la construction de la future grande mosquée de cette ville qui doit accueillir jusqu'à 4 000 fidèles. Rassemblement, le chantier débuté en 2021 et essentiellement financé par les dons de fidèles est estimé à plus de 15 millions d'euros. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. À Paris, la vague de froid a déjà fait une victime. Le corps d'un homme hébergé dans un foyer Emmaüs a été retrouvé dimanche soir sur la voie publique dans le 17e arrondissement. Un décès probablement lié au froid, selon une source policière. Cette découverte intervient alors que le plan grand froid vient d'être activé à Paris et en Ile-de-France avec un renforcement de l'hébergement d'urgence et des maraudes. On fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Un homme a été retrouvé mort dimanche en fin d'après-midi sur la voie publique dans le nord-ouest de Paris. Les pompiers ont constaté le décès peu après 18 heures, après avoir été appelés pour un homme inanimé dans le 17e arrondissement, selon une source policière. D'après les images de vidéosurveillance, l'homme se trouvait dans la même position, au sol, depuis le matin. Il a été identifié par le responsable d'un foyer Emmaüs voisin où il était hébergé. Le décès serait probablement dû au froid. Ce drame survient au moment où la préfecture d'Île-de-France a activé dimanche le plan grand froid à Paris et en région parisienne en raison de la persistance de températures négatives la nuit. Selon Météo France, le froid doit se maintenir ces prochains jours avec parfois des températures sous zéro la nuit et des maximales ne dépassant pas 4 degrés en journée. Le dispositif prévoit notamment l'extension extension des horaires d'ouverture des accueils de jour, le renforcement des maraudes et l'ouverture de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La préfecture annonce de nouvelles places dans les centres d'hébergement et des salles mobilisées, en plus des 46 200 places disponibles toute l'année à Paris, des 300 places supplémentaires ouvertes pour l'hiver et de 200 nouvelles mobilisées ces derniers jours. Des chambres d'hôtel doivent aussi être mises à disposition pour les familles, certains accueils de jour pouvant ouvrir en halte de nuit, et 60 femmes isolées sont accueillies depuis ce lundi dans les salles de la préfecture de région dans le 15e arrondissement. Plusieurs départements franciliens ont également activé ce plan.
Et ce plan grand froid décrété par le préfet de Paris s'ajoute au plan hiver mis en place chaque année par la ville de Paris. Et on écoute à ce sujet Léa Filoche, l'adjointe à la mairie de Paris en charge des solidarités.
C'est vrai que le plan hiver de la ville de Paris se constitue de, on va dire, deux piliers. Un pilier, c'est la question de l'hébergement d'urgence avec la création des 130 places sur toute la période hivernale, et aussi une augmentation des moyens alloués à l'aide alimentaire. La ville distribue pendant l'hiver 60 000 repas supplémentaires par jour, par l'intermédiaire à la fois des petits déjeuners, des boîtes de lunchbox, on appelle ça, c'est-à-dire des boîtes de déjeuner, et puis aussi de sites supplémentaires ouverts pour dîner le soir, assis, au chaud. Vraiment, notre objectif, c'est d'essayer de permettre aux personnes très précaire, de pouvoir trouver dans le moment du repas un moment aussi de repos, de répit, un moment de pause. Et donc, on cherche surtout des lieux pour pouvoir faire des distributions alimentaires où les personnes sont assises. Et donc, du coup, on a ouvert le restaurant administratif de l'hôtel de ville le soir pour 250 repas tous les soirs. On a aussi ouvert un autre site, un restaurant municipal qui d'habitude n'est ouvert que le midi. On l'a ouvert le soir pour faire 150 repas supplémentaires. Et puis on a les distributions de petits déjeuners solidaires à la fois à l'Académie du Climat, mais aussi dans les lieux culturels du centre de Paris, qui distribuent aussi les déjeuners du midi. Et donc du coup, on a plus de 60 000 repas supplémentaires sur la période hivernale par rapport au reste de l'année.
Et les associations que vous soutenez cherchent toujours des bénévoles, notamment pendant les fêtes, on sait que beaucoup de bénévoles sont absents.
Absolument, les bénévoles sont très précieux dans cette période. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit par l'intermédiaire de la Fabrique de la Solidarité qui recense l'ensemble des besoins des associations et permet ensuite de redispatcher les bénévoles disponibles et motivés, ou que ce soit par l'intermédiaire des associations elles-mêmes, alors les Restos du Cœur les plus connus, mais on peut aussi citer la Fondation Armée du Salut, on peut aussi citer la Chorba, on peut aussi citer le diocèse qui est très présent aussi dans cette période-là. Et évidemment, si vos auditeurs certains sont motivés dans cette période pour faire du bénévolat, la question des distributions alimentaires est évidemment assez cruciale et assez centrale dans l'engagement des Parisiens solidaires.
Et vous venez d'écouter Léa Filoche, adjointe à la mairie de Paris en charge des solidarités. C'était le dossier du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant à la page sport spéciale Cannes avec Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Nawal.
Vous êtes en direct avec nous sur Radio Orient. Le Maroc s'est donc qualifié hier soir pour les huitièmes de finale après une très belle démonstration.
Oui, effectivement, les Lions de l'Atlas ont répondu présents sur le terrain après ce match nul face au Mali, un doublé d'Ayoub El Kaabi qui signe encore un retourné acrobatique et un but de Brahim Diaz pour sceller la victoire et donc la qualification en huitième de finale. Les Marocains affronteront le troisième du groupe C, D ou E, et on vous donnera évidemment l'équipe en face lorsque toutes les rencontres de poule seront terminées.
Et Mounir, il y a une polémique qui secoue cette CAN au Maroc, c'est cette billetterie qui semble poser des problèmes aux supporters.
Alors oui, les médias parlent d'un fiasco de la billetterie avec des tribunes vides, des rumeurs de places gratuites, des files interminables. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui relève de l'intox? Et puis, ce qui se passe au Maroc n'est pas une exception africaine. On va rappeler ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris ou encore au Mondial 2022 au Qatar, où la billetterie est devenue un problème mondial. On aura notamment l'analyse d'Achille H, journaliste sportif pour Sport News Africa, et de Julien Brien, journaliste et commentateur sportif, et les témoignages de supporters directement concernés.
Et on retrouvera aussi Salma Darlaoui ce soir avec une chronique assez spéciale qui porte sur les surnoms des équipes africaines.
Oui, effectivement. Si je vous parle des panthères, des guépards ou bien des léopards, bon, vous me direz spontanément que ce sont des animaux. Mais en réalité, ce sont aussi des surnoms d'équipes africaines chargées d'histoire, d'identité et de symboles. Et ce soir, Salma donc, va nous expliquer pourquoi ces nations ont choisi ces animaux-là, ce qu'ils représentent et comment ces surnoms racontent une partie de l'âme du football africain.
Eh bien, nous, on a hâte d'écouter tout ça. Merci beaucoup, Mounir, pour toutes ces précisions. Et on vous retrouve donc ce soir à 18h20 pour l'émission Un Sport Sans Frontières spéciale Cannes. Et d'ici là, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.